Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc l'émission s'appelle « Regard d'ailleurs ». Regard d'ailleurs, c'est cette envie d'élargir son regard, d'élargir sa vision sur le monde grâce à des rencontres et grâce à des parcours de vie. Donc j'aime bien dans cette émission donner la parole à des écrivains, des réalisateurs, des photographes, des aventuriers, des voyageurs que je rencontre sur mon chemin. Là, on sort tous les deux, Clarisse, d'un festival, le Mantra Joie, où on s'est retrouvés avec 800 personnes à chanter. Et parmi tous ces joyeux êtres, en fait, pas mal de voyageurs, dont toi, on a eu un échange, tu me disais que tu rentrais, je crois, du Pérou. Donc l'idée, c'est qu'on prenne un temps. Et tu me disais, ça a été un peu, pour moi, une quête intérieure, et ça a été un voyage assez impactant. Donc voilà, on va parler du Pérou, mais pas que, parce que j'ai compris qu'il y avait d'autres voyages avant. Je comprends que le mouvement t'habite depuis tout enfant. Hein, tu me disais en off que tu danses depuis très longtemps. Donc voilà, l'idée, c'est prendre ce temps-là de rencontre et de savoir comment est-ce que le voyage ou l'envie d'ailleurs est entré dans ta vie. À quel moment tout ça est arrivé?
Alors, à quel moment tout ça est arrivé? Alors, effectivement, très justement, tu as dit que je dansais depuis l'âge de 3 ans, donc c'est vrai que le mouvement est là depuis toute petite. Et je crois que vraiment, ça s'est dessiné quand j'étais infirmière, les premières années, où j'ai eu beaucoup de liberté, dans mon emploi du temps. Et en fait, j'avais ma meilleure amie à l'époque qui était partie, infirmière aussi, qui était partie en Australie. Et en fait, on avait le même âge, la même profession. Et elle vivait des aventures de dingue à l'autre bout du monde. Et puis moi, j'étais infirmière aux urgences. Alors, c'était d'autres aventures. Mais voilà. Et du coup, de voir sa réalité à elle et la mienne a fait que je l'ai d'abord rejoint en voyage, en vacances. Vacances à cadeaux et routes, hein, mes vacances. Et jusqu'au jour où j'ai plus jamais voulu retourner travailler.
Donc c'est beau, hein. En fait on se rend compte qu'on a tous des sources d'inspiration les uns pour les autres, et c'est aussi un peu l'idée de ce podcast finalement, c'est peut-être que toi auditeur tu vas entendre Clarisse ou peut-être d'autres émissions, regarde d'ailleurs, et te dire mais en fait oui pourquoi pas moi, parce que des fois on se rend compte qu'on passe un peu à côté de notre vie ou de nos rêves, on en parlait avant cette phrase, ne rêve pas ta vie mais vis tes rêves. On est de plus en plus dans une quête de sens, hein. Plein de gens font des virages dans leur vie personnelle ou professionnelle, parce qu'on se rend bien compte que le système tel qu'il évolue ne nous nourrit pas, ou pas suffisamment, pour certaines personnes. Donc voilà, toi c'est ton ami hein, qui te donne cette envie de voyager, tu la rejoins avec ton sac à dos, tu mets un pied dans cet univers-là, et après?
Et après, alors, tous mes voyages ont une couleur différente. Et ont des symboliques différentes. C'est-à-dire que mes premiers voyages, du coup, j'ai passé un an et demi en Océanie, j'ai fait un an en Australie et 6 mois en Nouvelle-Zélande. Et avant ça, j'avais fait l'Asie. Et tous ces voyages-là, pour moi, ça a été l'apprentissage de la liberté. De oh, « Ok, il y a une réalité différente qui existe que ma propre vie. » Et voilà, c'était que des découvertes, comme une ressource infinie d'exploration du vivant, de l'humain et de ces réalités différentes. Vraiment, j'ai eu une prise de conscience de... En fait, il y a autant de quotidiens différents que d'êtres humains différents.
Donc toi, c'est pas ta famille hein, qui t'a emmené sur les routes du monde en voyage. C'est vraiment quelque chose que tu as exploré par toi-même en te rendant compte qu'effectivement, il y avait cette diversité qui, toi, t'appelait.
Exactement. J'ai vraiment fait ça toute seule. Je suis la seule dans ma famille. Ma mère a un peu voyagé, mais en voyage organisé très jeune. Et elle m'en a jamais parlé comme moi, je l'ai vécu, en fait, le voyage. Et ensuite, après ces voyages-là de découverte de la liberté, je me suis dit au bout d'un moment, la liberté, j'ai rencontré ça. Je rentre en France et je me pose. J'ai fait ça pendant 8 mois et en fait ça a été terrible parce que j'avais tellement changé, j'avais tellement vu d'autres choses que de revenir dans quelque chose qui n'avait pas bougé en France, c'est comme si je rentrais plus du tout dans le moule que je m'étais faite avant en fait. Et du coup pour me sauver encore, je suis repartie en Amérique du Sud un an et demi.
Ça, c'est quelque chose qui est un peu récurrent, je l'entends beaucoup. Ouais. C'est vrai que quand on part, on va vivre plein de choses. On va se transformer de par les rencontres, par une manière de se découvrir soi, finalement. C'est même un proverbe africain qui dit « si tu n'étudies pas, voyage ». Et quand on revient, on se rend compte que rien n'a changé, rien n'a bougé. Et c'est pas simple, des fois, les premiers retours de voyage où on a du mal à partager tout ce qui s'est passé en si peu de temps, alors qu'ici... Ouais, ça bouge pas.
C'est exactement ça. Et je me rappelle qu'à l'époque, mes amis qui avaient déjà voyagé avant moi m'avaient dit « Clarisse, prépare ton retour. C'est important. » Et même si on nous le dit, le premier retour, on s'en rend jamais vraiment compte de l'immensité de l'épreuve, en fait, de ce premier retour, quoi. De l'incompréhension des personnes qui nous entourent, du manque d'intérêt aussi. C'est-à-dire qu'on nous dit « Raconte-nous ton voyage, mais... » Un an et demi de voyage, comment on peut raconter ça si tu viens pas me poser des questions précises, d'intérêt vraiment, de venir creuser ce qui s'est passé pour moi. Et ouais, ça c'est assez difficile.
Tu parles, tu rencontres ces espaces de liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Comment tu la définis? En quoi est-ce que tu es plus libre dans le voyage que tu peux l'être ici dans ton quotidien?
Je pense que pour moi, la liberté, c'est, si je l'image, c'est simplement la compréhension et la conscience qu'il y a des réalités différentes et de pouvoir la choisir. Et du coup, dans la liberté du voyage, pour moi, c'est cette liberté du mouvement, de pouvoir... avoir une liberté financière de, en fait, vu que notre consommation elle est réduite, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, on peut être partout où on a envie, en fait. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de se dire faut que je paye mon loyer, j'ai ma famille, j'ai mon couple qui me rattache quelque part, j'ai pas de lien, en fait. C'est très bizarre parce que c'est paradoxal, j'ai pas de lien qui m'attache, mais par contre j'ai des liens partout, parce que partout où je vais, j'en fais.
Et on rentre dans une forme de tout est possible, en fait, vu qu'on n'a pas ce lien, qu'on n'a pas de contraintes. Voilà, si on est vraiment prêt à se mettre sur la route sans avoir réservé en avance les hôtels ou les destinations, les billets de train, les billets d'avion, tout est possible.
Exactement. Et ça, c'est très juste la spontanéité du voyage. Pour moi, ça, c'est un élément clé qui vient à la liberté. C'est-à-dire que, oui, de se sécuriser avec des règles très, très simples pour être... safe, hein, on voyage en tant que femme seule, mais vraiment laisser une grande part de vide pour que ça puisse se remplir avec tout ce qui est spontané et de rien organiser, ouais.
Mais Clarisse, tu dis que tes premiers voyages, donc ça a été, je crois, l'Australie, hein, ouais. Pour retrouver ta collègue qui, comme toi, était infirmière, donc à ce moment-là, c'est dans un créneau vacances, c'est ça, tu es salariée, il faut que tu te libères des vacances pour partir là-bas, mais donc là, tu sais déjà que tu as un billet de retour.
Alors effectivement, je ne suis pas allée en Australie, on s'est rejoint en Asie. Elle partait d'Australie, moi de France, et on se rejoignait en Asie. Et effectivement, là, j'avais des billets retour. Je faisais 2 semaines ou 3 semaines de voyage, plusieurs fois par an. Et jusqu'à ce jour-là où on s'était rejoint aux Philippines. Et puis moi, je devais prendre mon billet retour. Et puis elle continuait son voyage, je ne sais plus où. Et elle était là, mais Clarisse, mais reste avec nous. Tu connais tous mes potes et tout. On est trop bien tous ensemble. Qu'est-ce que tu as travaillé? Et j'étais là, j'ai failli pas rentrer. Il y a un endroit de moi où j'ai failli vraiment sur l'impulsivité de me dire, en fait, tant pis, on va pas venir me chercher, hein, de toute façon. Je suis quand même rentrée pour... par sagesse, je pense, et responsabilité, parce que quand même, infirmière, c'est un poste qui a de la responsabilité. Et après, voilà, je me suis fait la promesse, j'ai passé mon permis, je me suis dit, le jour où j'ai mon permis, je pars.
Tu pars, c'est-à-dire ?
Je pars sans billet retour. Je pars en Australie sans billet retour, et du coup, c'est ce que j'ai fait, jusqu'à que j'en ai eu marre, et que, enfin, pas marre, mais que je suis arrivée au terme de ce voyage-là, où je suis rentrée en France, et après, je suis retournée voyager en Amérique du Sud, et j'ai fait la même chose. J'ai pas pris de billet retour, et j'ai juste pris un aller en Colombie, je me suis dit, voilà, on va voir.
Donc on va peut-être s'intéresser un peu à l'Australie. Hein. Tu pars avec ton permis de conduire, tu as quel âge à ce moment-là et quel est le projet quand tu pars sans retour pour l'Australie?
La découverte. J'ai aucun autre projet. Et je ne suis pas partie pour fuir quelque chose parce que j'étais hyper heureuse en France. J'adorais mon travail et tout ça. Mais juste, c'était la découverte de, tiens, c'est quoi? Moi, j'ai toujours été hyper, hyper curieuse. Je crois que ma curiosité a guidé tous mes voyages. Ouais, ça a été vraiment ça, juste la curiosité.
Et là, du coup, tu lâches ton boulot à l'hôpital ou comment tu fais? Parce qu'il y a toujours une contrainte économique et matérielle. Voyager, c'est chouette, mais il y a quand même un coût, même si effectivement on se rend compte en voyageant et dans le mouvement qu'on a souvent besoin de pas grand chose.
Alors moi, ce que je fais, c'est que je me mets en disponibilité, qui m'assure de retrouver un poste quand je rentre, mais ça, par contre, ça ne me fait pas de... J'ai pas de salaire qui tombe. Donc, en attendant que je passe mon permis, j'avais économisé pas mal de sous, quand même, parce qu'en étant infirmière, je gagnais bien ma vie. Et, bien, moyennement, hein, on va pas s'enflammer. Mais voilà, j'avais quand même un salaire qui tombait tous les mois, et vu que j'ai jamais été très dépensière, j'ai fait en sorte de mettre de côté. Et après, j'étais toujours très travailleuse. Et du coup, même si j'avais beaucoup d'argent de côté, en Australie, j'ai travaillé 8 mois sur 12. Et en Nouvelle-Zélande, par contre, j'ai pas bossé parce que du coup, j'avais tellement d'argent de l'Australie et de France que du coup, je me suis dit, bon, je peux quand même m'accorder 6 mois sans bosser.
Ok, donc t'es partie avec le PVT, hein, le Working Holiday Visa. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de Français font ça. On part en Australie pour apprendre la langue et aussi parce qu'ils recherchent des saisonniers pour faire du picking, la cueillette de fruits ou des choses comme ça. Donc toi, t'as fait quoi en Australie? Il y a aussi le woofing, je sais pas si t'as fait ça aussi.
Ouais, j'ai fait du woofing, mais j'ai surtout fait du Working Holiday des visas là, de travailler pour payer mon voyage. Et du coup, j'ai fait les récoltes de cerises. J'ai travaillé pendant plusieurs mois dans une ferme de jojoba où j'ai fait tous les stades de la culture de jojoba. C'était assez cool. J'ai conduit des gros tracteurs et tout ça. Et je travaille en auberge jeunesse aussi, mais majoritairement en ferme. Et du coup, ça ouvre à cette réalité agricole aussi, à ce métier-là. Et ça m'a ouvert du coup aux questions écologiques, chose où j'étais pas du tout sensible avant. Voilà, c'est là où je vois que toutes les réalités que j'ai touchées en voyage m'ont aussi impacté dans ma façon de vivre ensuite.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'Amérique du Sud, avant d'aller dans cette expérience-là, dans ce chapitre-là, c'est vrai qu'on parle de plus en plus des plantes médecines. J'entends beaucoup parler de ça, notamment en Europe ou en France, sur les festivals. Donc avant de rentrer dans ce sujet-là, si tu devais me définir le voyage, ce que le voyage a apporté pour toi, ce serait quoi ?
Je crois que le voyage, pour moi, ça représente la liberté. J'en ai beaucoup parlé depuis le début. Pour moi, c'est l'ouverture sur le monde. C'est-à-dire que c'est venir complètement sortir de ce que l'on connaît pour aller à la rencontre du monde. Il n'y a pas plus grande ouverture pour moi que le voyage.
Et tu es rentré donc avec des compétences linguistiques, tu parlais de l'écologie aussi, hein, ça permet vraiment de sortir de son système de pensée, de croyance et de s'ouvrir à complètement autre chose si on est prêt à ça.
Exactement, et du coup ça nous transforme à la racine de l'être, c'est-à-dire qu'on vient rencontrer des choses qu'on n'aurait jamais rencontrées si on était resté dans notre quotidien, ou alors à plus long terme, j'imagine, avec les expériences de vie. Mais effectivement, moi ça m'a changé, hein, ça m'a bouleversé dans le lien à la terre, à l'écologie, ça a drastiquement changé mes habitudes de vie, mon lien du coup à ma façon de voir mon rythme de vie, mais ma consommation, mais aussi voilà toute la spiritualité. Et du coup, moi, c'est venu assez tard. C'était pas du tout dans mon chemin de voyage du début, mais après quand ça s'est ouvert, effectivement, la spiritualité aussi a pris une grosse place dans ma vie depuis. Les voyages, donc il y a plein de choses qui se sont ouvertes. Ouais.
Oui, parce qu'aujourd'hui, je te rencontre prof de yoga, tu organises des stages, tu me disais avant que tu fais une heure de méditation par jour. Donc quand est-ce que tout ça est arrivé? Est-ce que c'est grâce au voyage que tu t'es mis à faire du yoga et de la méditation?
Exactement. En fait, c'est vraiment au Pérou où ça a été un voyage initiatique, où là-bas, j'ai rencontré tout ça. Ça a été pendant 10 mois de l'exploration de toutes ces pratiques-là, où je suis tombée un peu dans la marmite, quoi. Mais jusqu'au Pérou, qui a été d'ailleurs mon dernier voyage, la spiritualité n'avait pas de place dans mes voyages. Enfin, la spiritualité, ça veut tout et rien dire, hein, mais je veux dire, j'avais cet aspect de l'écologie et de la liberté, cet aspect du vivant, de la rencontre, de l'ouverture, de la bienveillance, de tout ça, mais j'avais pas du tout collé de pratique dessus spirituelle, en fait.
Mais tu es allé au Pérou pour ça, pour rencontrer cette spiritualité, pour rencontrer les plantes médecines ou pas? C'est quelque chose qui s'est vraiment fait de manière assez naturelle et organique sur place?
Alors, c'est complètement organique et sur place. En fait, quand je suis allée au Pérou, ça s'est fait, mais je savais même pas ce que c'était les plantes médecines. Je savais même pas ce qui se passait là-bas, en fait. Mais ça a été incroyable. En fait, j'avais postulé En fait, je m'ennuyais un peu dans mon voyage en Amérique du Sud. Et en fait, je y arrive à un moment donné où quand on voyage... Ouais, vas-y, bien sûr. Ça avait plus de sens de voyager. Il y a un endroit où, oui, on voit plein de pays, oui, on voit plein de paysages, ça fait un peu la fille blasée, mais il y a un truc où, à un moment donné, il faut mettre de la contenance derrière ça. Et en Colombie, j'étais arrivée à un point où j'étais là en mode, bon, ben, c'est cool, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je erre. Et pour donner de la contenance à ça, j'avais postulé à un poste en tant qu'infirmière en Guyane. Je me suis dit, je vais me faire une expérience en Amazonie, un truc un peu exotique, là. Et j'avais 2 mois à combler, ou 3 mois à combler avant mon poste. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Tous mes potes en Colombie partaient et tout ça. Et je me suis dit, est-ce que je reste en Colombie ou est-ce que je vais ailleurs? Et en l'espace de 3 jours, j'ai rencontré mais au moins 5 personnes qui m'ont parlé du Pérou. Donc je me suis dit, en 3 jours, j'ai pris mon billet pour le Pérou. Et je partais 5 jours après.
Donc avant d'aller au Pérou, je veux bien revenir sur cette errance dont tu parles, parce qu'effectivement, il y a pas mal de voyageurs qui traversent ça. Autant au début, il y a un côté excitant, parce qu'on est comme des enfants, on a tout à réapprendre, une langue, des odeurs, des saveurs, une culture nouvelle. Et on se retrouve des fois à consommer tout ça avec son guide du voyage, à enchaîner les visites de monuments, de temples, de musées, de je ne sais quoi. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver, en tout cas beaucoup se retrouvent à se dire, mais... Ouais, une sorte de lassitude, et on peut devenir ce qu'on appelle des fois une âme errante. Et c'est vrai que dans le voyage, j'entends que ceux qui s'épanouissent le plus, c'est ceux qui vont y avoir un fil rouge, une ligne directrice. Que ce soit, je sais pas, écrire un récit d'aventure, que ce soit documenter un sujet, que ce soit faire une école de yoga en Inde, mais en tout cas, vraiment cette notion de poser une intention et d'avoir quelque chose, tu parles de contenance, quelque chose qui nous tienne, quelque chose qui nous nourrisse vraiment. Ouais, bref, je veux bien que tu reviennes sur cette partie-là, hein, cette errance que tu as ressentie, au bout de combien de temps elle s'est mise en place, et pourquoi est-ce qu'on, des fois, perd le goût et la magie du mouvement?
Ben, c'est vrai que moi, en fait, ça a duré quand même beaucoup d'années, hein, parce que déjà, quand j'étais aux urgences, pendant 3 ans, j'ai voyagé en vacances dans plein de pays, et après, ça a duré 1 an et demi en Océanie. Donc en fait, pendant toutes ces années-là, j'ai voyagé, mais sans me poser la question de pourquoi je voyage. Et arrivé en Colombie, il y a eu cette question-là de « mais en fait, c'est quoi le but de tout ça ?» Et je crois que jusque-là, en fait, je ne me suis jamais posé la question du lien de moi à moi, de qu'est-ce que je cherche à l'intérieur de moi qui me fait voyager, en fait. Et jusqu'à que j'arrive au Pérou, j'en étais pas là, en fait, de la réflexion. Juste, je m'ennuyais encore. Et je me disais, mais mince, pourquoi je m'ennuie alors que je suis dans des pays de dingue, qu'il y a plein de choses à faire. Mais effectivement, ça vient de la consommation. Donc, en fait, quelle est mon utilité dans le monde à faire ça, en fait? C'est ça aussi. Moi, à la base, je pars du soin. Et du coup, je sais que ce qui me fait vivre, c'est d'être utile pour le monde, c'est d'être au service d'eux. Et là, à faire tout ça, pour moi, c'était assez égoïste, en fait. Au bout d'un moment, je tourne un peu en rond, quoi. Je nourris mon propre nombril de toutes ces expériences, mais après, qu'est-ce que j'en fais, en fait?
C'est vrai que souvent, on est dans une société où la distraction va nous faire oublier quelle est notre place dans le monde et ce qu'on peut vraiment y apporter. Et cette notion de se reconnecter à soi et de savoir, effectivement, qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce qu'on peut apporter à l'humanité, je crois que ça fait vraiment partie des grandes questions qui nous permettent de retrouver un sens dans nos vies, dans le voyage ou même dans nos présents.
Oui, exactement. Et puis, pour moi, cette question, elle est quand même le centre de ma vie, en fait. C'est que même actuellement, encore maintenant, je cherche encore les petits moments où je m'égare, où je ne sais plus où j'en suis, où ça n'a plus de sens ce que je fais. Je me dis, ok, Clarisse, là, maintenant, tout de suite, comment tu viens servir le monde, en fait? Parce que vivre que pour soi, moi, ça n'a pas de sens, en tout cas.
Alors, avant d'aller au Pérou, comment est-ce que tu sers le monde aujourd'hui? Comment est-ce que tu es au service du monde? Est-ce que tu as trouvé? Parce que là, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde.
Ben, moi, je crois que je l'ai trouvé depuis petite, hein, c'est le soin. Je sais que depuis petite, j'ai toujours voulu être infirmière, pas médecin, mais infirmière pour venir soigner, être en relation avec l'humain directement. Et du coup, aujourd'hui, je le fais à travers les stages, à travers les massages, les cours de yoga, où en fait, tout ce que j'ai acquis dans mes voyages, la philosophie, les pratiques, la spiritualité, le lien à la nature, l'écologie, tout ça, je transmets dans toutes ces pratiques-là, en fait. Et pour moi, ça a du sens parce que je viens retransmettre tout ce que moi j'ai appris à des milliers de kilomètres, je viens le retransmettre ici, en France, par ces pratiques. Du coup, j'attrape un peu les gens sous le logo d'un cours de yoga, mais en fait, je leur donne des influences que j'ai trouvées au bout du monde, quoi.
On en parlait un peu avant, cette notion de soin et de lien. Hein, c'est peut-être ça dont on a réellement besoin aujourd'hui, c'est de nourrir les liens qu'on peut avoir aux autres. Parce que c'est vraiment, on n'est pas dépendant, on est tous interdépendants. Et c'est vraiment ensemble qu'on arrive à se nourrir et à se faire grandir. Donc merci d'être au service d'eux et d'être à l'attention. Donner de l'attention, donner du soin, c'est quelque chose de vraiment essentiel. En tout cas, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Tu pars au Pérou, donc après différentes synchronicités, différents signes, tu te dis je vais au Pérou. Et là, apparemment, un nouveau chapitre dans ta vie de voyageuse s'ouvre. Donc pourquoi, comment, emmène-nous avec toi au Pérou?
Alors là, c'est une phase de ma vie qui, pour moi, ça m'a tellement bouleversée, tellement fort en fait, même encore maintenant quand j'en parle. Le Pérou, j'y suis arrivée dès le premier jour, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais sur la place de Cusco. Je me suis dit, c'est que je suis au bon endroit. Je suis au milieu du Pérou, je suis au milieu de nulle part et quelqu'un m'appelle Clarisse, comme si j'étais sur la place du marché en France. Du coup, je me suis dit, génial. Et là, en fait, ça a commencé dès la première semaine où avec cet ami-là et quelqu'un d'une auberge de jeunesse, je sais plus d'où il venait. Il nous a emmenés il nous dit, allez les filles, je vous emmène dans un concert en live, dans un bel endroit. Donc moi, avec mes notions d'avant, je me suis dit, trop bien, on va aller dans un bar et avec du live musique. Et en fait, je me suis retrouvée dans une énorme maloca, donc c'est comme les temples au Pérou, avec 50 personnes qui buvaient du cacao et qui chantaient et dansaient ensemble. Et là, je me suis dit, je suis atterrie dans une secte.
Des Péruviens ou des Occidentaux à ce moment-là?
Péruviens et Occidentaux. Il y avait beaucoup d'Occidentaux, quand même. Et ils étaient tous là avec leur cacao, là, leur verre rempli de chocolat. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Les gens, ils sentent le cacao, on dirait du Nesquik un peu plus mauvais parce que c'est pas sucré. Et je me suis dit, mais ils sont fous. Vraiment, alors j'ai essayé de chanter un peu, mais en même temps, j'ai rigolé à l'intérieur de moi. Je me disais, quand même, Clarisse, là, le voyage, ça t'emmène dans des trucs, ça devient intéressant, quoi. Et en fait, à cette cérémonie donc c'est une cérémonie du cacao.
J'ai l'impression que de partout, les cérémonies cacao sont en train de fleurir.
Ouais, alors la cérémonie du cacao, alors il faut savoir quand même traditionnellement qu'il n'y a pas de cérémonie du cacao. Ça n'existe pas, c'est complètement occidental. En fait, le cacao est une médecine. Et ensuite, quand on parle de cérémonie du cacao, c'est-à-dire que les occidentaux utilisent cette médecine-là au service de différents outils, qui peuvent être la danse, le chant et tout ça. Et en fait, la médecine du cacao, c'est le cacao qu'on connaît bien, hein, finalement. Hein. Il n'y a rien de fou. Hein. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait, je crois que c'est la théobromine à l'intérieur, qui permet, en fait, quand on en boit de façon vraiment brute, sans sucre ajouté, sans rien, et en venant activer la circulation sanguine par des pratiques, donc ça peut être de la respiration intense, de la danse, du chant et tout ça, ça permet de... Il y a un effet d'ouverture du cœur, voilà, d'amour, ça nous peut même nous donner des palpitations. Et du coup, il y a aussi une phase d'excitation. C'est un peu comme la caféine. Et du coup, tout ça mélangé, ça nous donne des espaces où quand on chante pendant des heures avec du cacao, on vient dans un état second de transe où le cœur est vraiment grand ouvert et rempli d'amour. C'est assez incroyable, avec juste du cacao, ce qu'on peut faire.
Et donc là, dans cette maloca, avec ta tasse de cacao, vous chantez quoi, hein, quel type de chanson? Parce que là, on est au Pérou, et tu parles de mantra. Donc il y a vraiment un côté international, j'ai l'impression, avec beaucoup d'occidentaux aussi qui se retrouvent dans ces réseaux-là.
Alors effectivement, dans ces cercles de chant, il y a l'influence... D'une part, avec tous ces voyageurs occidentaux, en fait, de toutes les parties du monde. Mais je pense que d'avoir voyagé moi aussi dans différents pays, je me rends compte que dans toutes les cultures qui ont des traditions et qui ont une spiritualité, il y a toujours des chants sacrés. des chants pour se relier au vivant, des chants pour se relier au divin, des chants pour se relier à soi. Et donc, du coup, là, on vient chanter des chants sud-américains aussi, des chants médecine qu'on chante en cérémonie avec les plantes médicinales, et des mantras qui viennent d'Inde. On invoque des déités qui ont des symbolismes différents, du masculin sacré, du féminin sacré, des déités qui viennent trancher l'ego. Voilà, c'est des notions très vastes et abstraites, on pourrait y passer des heures à en parler, mais je crois que ce qui relie tout ça, c'est juste que c'est des chants qui se répètent avec des phrases assez simples. Du coup, ça permet de rentrer dans une certaine transe quand on le répète très très longtemps. Et du coup, cette transe-là nous emmène à une ouverture du cœur, tout simplement, à s'abandonner dans le chant.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Parlons-en de l'ayahuasca. Donc toi, tu n'es pas parti au Pérou pour prendre de l'ayahuasca, parce qu'il y a aussi tout un tourisme qui s'organise autour des plantes médecines, et beaucoup de gens prennent un billet d'avion pour retrouver un centre qui va diéter la plante et qui se termine avec différentes sessions d'ayahuasca. Donc toi, c'est vraiment quelque chose que tu rencontres là-bas, c'est ça ?
Exactement. En fait, même ma première cérémonie, je ne savais pas ce que c'était. Moi, je suis un peu trop spontanée des fois. Mais en fait, Giancarlo, donc cet homme avec qui j'étais, m'avait dit, tiens Clarisse, cette semaine, il y a une cérémonie avec un chaman que j'ai ramené de la jungle. Donc, c'était quand même rassurant parce que c'était un local. Donc, je savais que la personne qui faisait ça était safe parce qu'il connaissait les bons plans. Et en fait, il m'a dit, voilà, il y a une place, si tu veux, tu peux venir t'asseoir avec nous cette nuit. Alors moi, je me suis dit, super, un truc local, une expérience traditionnelle, allez, on y va, je m'assois avec eux. Mais je savais pas ce que ça voulait dire, s'asseoir avec la plante toute la nuit. Je savais pas ce que c'était. Et là, du coup, je rentre donc dans la maloca, et je découvre un peu toutes les pratiques, comment préparer la cérémonie. Mais même, on m'explique même pas, en fait. C'est presque dangereux, parce que personne m'a expliqué ce que c'était, quoi. Parce que là-bas, c'est tellement un business. Ils sont tellement habitués que les gens viennent là-bas pour ça qu'en fait, c'est une évidence. Alors que moi, vu que je n'étais pas du tout là pour ça, je ne savais même pas ce que c'était l'ayahuasca. Je n'en avais jamais entendu parler. Et du coup, je me suis assise, j'ai bu. Là, je me rappellerai toute ma vie. Hein. Je suis partie en fou rire dans la cérémonie. Je me suis dit, mais si mes potes savaient ce que je suis en train de vivre, mais incroyable. Et même, je me suis fait rire. Je me suis dit, là, quand même, Clarisse, la naïveté et la spontanéité du voyage peut t'emmener dans des choses assez dangereuses aussi, parce que c'est tellement fort que ça aurait pu aussi très mal se passer, quoi. Et ça a changé ma vie. Vraiment, cette première cérémonie, ça a changé ma vie. Vraiment, j'ai touché des mondes que je pensais même pas que ça pouvait exister. J'ai touché des sensations, Ouais, c'est une autre ouverture encore.
Ouais. Je veux bien que tu y mettes un peu de concret. Donc, ouais. Tu viens du monde médical, hein, finalement. Tu es infirmière, tu travailles à l'hôpital, des fois en tant que libérale. Tu te retrouves dans une maloca au Pérou à chanter des chants sacrés, des icaros en prenant de l'ayahuasca. Donc, tu découvres d'autres mondes, donc avec quand même une sorte de background incarné, ancré, presque un peu scientifique, à goûter quelque chose qui t'emmène dans une dimension tout à fait autre. En quoi est-ce que ça change ta vie ?
Alors effectivement, moi, vu que j'avais une base scientifique, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que je suis pas allée dans la spiritualité avant cette expérience-là, parce que moi, je croyais en rien à part le corps, parce que c'était mon expertise. Mais là, la cérémonie d'ayahuasca, en fait, c'est tellement fort que ça te crée aussi des sensations dans le corps. Donc, il y a un endroit où c'est très... ça te met en lien avec un monde invisible, un monde des esprits, mais ça s'incarne dans ton corps. Il y a un endroit où, moi, ça s'incarnait dans mon corps. J'ai senti des choses... Donc, c'est une plante qui sécrète l'hormone que l'on a quand on meurt et quand on naît, qui sécrète l'hormone de la naissance et de la mort. Je crois que c'est la DMT. Et enfin, je pas certaine de mes sources, mais je sais que ça sécrète ça en tout cas. Et donc du coup, c'est dans les cérémonies d'Aya, en fait, on vient à expérimenter la mort et la renaissance. Et il y a un endroit où philosophiquement, ça peut être compréhensible, mais moi, je l'ai vécu physiquement dans ces cérémonies-là. Et du coup, il y a un endroit où, quand je suis sortie de cette cérémonie-là, je me suis dit, mais plus jamais quelqu'un peut me faire croire que le monde des esprits n'existe pas. Parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai senti, parce que je l'ai vu, parce que j'en ai fait l'expérience directe, en fait, dans mon corps.
Mais c'est ça, la question qu'on va te poser quelqu'un d'un peu plus cartésien, en te disant comment est-ce que tu sais que c'est pas une hallucination, comme en prenant du LSD, ou en prenant un trip, ou en prenant de l'ecstasy. Comment est-ce qu'on sait que c'est un autre monde, une autre réalité qui est aussi palpable que celle dans laquelle on est en train d'échanger maintenant?
Parce que toute la cérémonie est reliée à nous. C'est-à-dire que ça va nous donner des informations sur le monde et l'univers en général, mais on vient aussi vraiment plonger dans nous, notre âme, notre être, nos blessures et tout ce que l'on a vécu jusqu'ici sur Terre, en fait. Donc en fait, les visions, les sensations physiques que l'on a sont complètement reliées à soi. Donc c'est pas un psychotrope qui va nous faire un voyage en dehors de nous, en fait. C'est comme une psychothérapie de 10 ans en une nuit, en fait. Donc, finalement, quand on nous offre ça, on se dit, ben c'est réel. Comment la plante... On peut presque avoir des discussions avec la plante. On communique avec la plante dans notre cérémonie. Donc, c'est comme si on venait... Là, c'est très schématique et je le mets dans le concret pour les gens qui n'ont jamais eu cette expérience-là. C'est comme si on discutait avec notre psychothérapeute, en fait. Mais ça se fait de façon... impalpable et dans d'autres dimensions, quoi. C'est vraiment quelque chose à vivre, mais de façon bien accompagnée, parce que ça peut être aussi vraiment dangereux. Pourquoi ?
Quelle est la suite ?
La suite, rentrer en France, et puis maintenant, c'est de rester ancré dans ses racines, ouais. De rester ancré et d'incarner tout ce que j'ai reçu, surtout. Je crois que c'est ça, pour moi, la recherche de maintenant. J'ai plus de recherche de me connaître vraiment, bien qu'on se rencontre à travers... toutes les expériences de vie, mais je suis plus dans une phase maintenant de construction et de transmission de tout ça, ouais.
Et le voyage aujourd'hui, c'est quelque chose qui t'appelle encore ou tu penses que tu as fait la boucle ?
Alors, je reste très grande voyageuse dans mon quotidien. Je suis rarement chez moi. Je suis toujours à des kilomètres. Mais ça s'est restreint au niveau géographique. Et j'ai un peu la flemme de voyager ailleurs maintenant. J'avoue que j'ai tellement vu de choses que... Si j'ai pas un vrai sens, je bougerai plus. Ouais.
Clarisse, merci. Merci à toi. Aum.
Merci. Merci à toi aussi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.